Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co avec ce soir pour débriefer l'actu Yves Maître, Clément David et Frédéric Simotel. Et après avoir parlé d'automobile, du marché de l'auto électrique et de tous ces changements géostratégiques, géopolitiques qui sont en train de se dessiner, à retrouver évidemment en replay ou en podcast si vous n'étiez pas avec nous, on enchaîne sur l'IA avec ce super ordinateur à près de 100 milliards de dollars. Voici le projet fou porté par OpenAI et Sam Altman et Microsoft avec un objectif, accélérer le développement de l'intelligence artificielle. Les explications de Nathan Cocampo.
Nom du projet, Stargate. Pas une porte des étoiles qui permet de voyager aux confins de la galaxie comme dans la célèbre série de science-fiction des années 90, mais un ordinateur d'une puissance encore jamais vue auparavant. Des millions de puces dédiées à l'intelligence artificielle seront réunies dans un même centre de données aux États-Unis. La facture pourrait s'élever à près de 100 milliards de dollars selon le média The Information. C'est 100 fois plus que le coût d'un grand centre de données actuel. Si l'IA a déjà montré en quelques mois une partie de son potentiel avec des outils conversationnels comme ChatGPT ou des générateurs de vidéos comme Sora, qu'en sera-t-il avec un ordinateur ultra puissant comme Stargate prévu pour repousser encore les limites. En tout cas, cette puissance recherchée nécessitera énormément d'énergie. On parle de 5 gigawatts, soit l'équivalent de la puissance de 5 réacteurs nucléaires actuels. Le projet pourrait d'ailleurs fonctionner à l'aide de son propre réacteur nucléaire, seule énergie capable de générer la puissance nécessaire sans émission de gaz à effet de serre. Après avoir investi plus de 13 milliards de dollars ces dernières années dans l'entreprise de Sam Altman, Microsoft passe donc à la vitesse supérieure avec Stargate, prévu pour 2028, le plus grand calculateur d'une série de 5 projets qu'il prévoit de développer ensemble d'ici à la fin de la décennie.
Voilà, explication très claire, signée Nathan Cocampo. Donc encore une fois, là on dépense des milliards, une centaine pour accélérer sur, évidemment, on le dit, on le répète, la chair à canon de cette intelligence artificielle, c'est la puissance de calcul. Que pensez-vous de ce nouveau projet de OpenAI et de Microsoft qui commence là-dessus? Tiens, peut-être Clément.
Allez.
Quand c'est un data center, généralement, c'est moi qui m'y colle.
C'est vrai.
Le premier truc, moi j'ai vu ça. Alors il y a un truc qu'il faut que les gens sachent. Quand on parle d'un investissement de 100 milliards, on parlera peut-être des data centers à 150 milliards d'Amazon, il faut savoir que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ça veut juste dire on va mettre une tonne d'argent sur la table parce qu'on veut investir beaucoup. Mais en fait, sur combien de temps? Qu'est-ce que tu mets dedans? Par exemple, ils te mettent le calcul aussi des coûts cloud qu'ils offrent ou des services qu'ils auraient facturés, si machin. C'est pas vraiment qu'il y a... C'est comme quand t'achètes un joueur de foot. Ouais. T'apprends qu'ils ont acheté, je sais pas quel joueur, 200 millions. En fait, c'est 100 millions cette année, plus les revenus sur les droits d'image, machin.
Ce qui a été le cas avec OpenAI et Microsoft, oui. Parce que, oui. En fait, on a parlé d'un rachat de 13 milliards. Enfin, en tout cas, d'un investissement de 13 milliards. Il y avait un crédit cloud de plusieurs milliards, en fait. Donc, effectivement, ça fausse un peu.
C'est le premier truc. Faut savoir que cette somme, c'est pas un chèque demain matin, il y a quelqu'un qui se retrouve avec 150 milliards sur un compte en banque pour construire un data center. En revanche, le deuxième truc, c'est que quand tu regardes les annonces de septembre, et je suis désolé, ça va jeter un froid tout de suite, de Scaleway, qui est sûrement l'entreprise en France qui innove le plus côté cloud provider sur l'IA, le chèque qui était annoncé, c'était 50 millions.
Ça, c'est sûr. Hein.
C'est, une fois que tu as dit ça.
C'est des constatations qu'on fait tous les soirs dans tes
échos. C'est donc.
Le déséquilibre est, ouais. est plus que horrible. Il est démesuré.
Il est insane. Il est incroyable. Insane. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, ils accélèrent. Bon, très bien, on le sait. Dans le monde du cloud et dans le monde de l'IA, Microsoft a pris en anglais, on dirait un glow, tu vois, mais un. Comment est-ce qu'on peut dire ? Un brillant, tu vois, a pris une lumière depuis un an qui est incroyable. Enfin, depuis le rachat, donc il y a depuis 6-8 mois, qui est incroyable. C'est-à-dire que ils sont là où c'était une boîte qui était perçue comme rassurante, bon père de famille, mm-hmm. tout ce que tu veux, etc. C'est en train de devenir une locomotive à laquelle il faut absolument s'accrocher. Et ce genre d'annonce va faire que accentuer ce phénomène. Mais le truc à retenir, c'est qu'en fait, ils sont sur une pépite, ils le savent, ils ont mis un coup d'avance à tout le monde. Je peux te dire que côté Amazon et Google, on l'a très mauvaise, ne serait-ce qu'en termes de communication, et que tant qu'ils vont continuer à faire des annonces comme ça, ils vont garder leur coup d'avance.
avec leur voice engine. Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais tout ça est intimement lié. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là. C'est le fait d'écouter 15 secondes d'une voix de n'importe qui pour après lui faire dire n'importe quoi. Alors, ça existe aujourd'hui, mais ça prend beaucoup plus de temps, ça ne marche pas toujours, etc. Là, voilà, non, voice engine. Non. 15 secondes, je crois, hein, de voix, et puis après, on vous accueille.
Derrière, ça c'est le calcul, mais, et d'ailleurs, en faire un peu de teasing, parce que tu reçois Laurent Bataille, le patron de Schneider Electric, et qui, justement, est partie prenante, et ils sont partie prenante dans la construction de ces... Alors, peut-être pas de ceux-là en particulier, mais ils sont quand même très présents. Et c'est justement là où Microsoft est fort aussi. C'est que Microsoft, aujourd'hui, Satya Nadella, il avait deux grands axes. Alors, OpenAI est arrivé un peu après, mais il avait le cloud, et tout ce qui était production d'électricité, parce qu'il s'est vite rendu compte à la vitesse à laquelle il vendait du Azure, qu'il allait avoir besoin d'électricité, au point d'envisager de construire lui-même ses propres centrales nucléaires pour produire l'électricité, ce qu'il imagine là déjà. Et c'est là où Microsoft est fort, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer, alors c'est pas forcément, ce ne sera pas une centrale nucléaire et Microsoft by Microsoft, mais ils ont cette capacité à emmener des industriels, à emmener toute une équipe, et dans ces 100 milliards, il y a ça, il y a du logiciel, il y a du serveur, il y a peut-être du Schneider électrique pour la gestion de tout ce qui est la clim, l'électricité, enfin tout ce que Schneider sait faire. Et puis il y a cette partie production d'électricité avec construction d'usines nucléaires, parce que ce sera la seule énergie propre capable d'aller enfin de fournir tout ça. Et c'est là où les 100 milliards, et c'est là où nous, en Europe, oui, on met 50 millions. Par contre, on espère que EDF va faire marcher ses EPR, on espère que le réseau va suivre, alors que Microsoft, là, ils arrivent avec des projets un peu globaux, quoi.
Moi, Yves, ce que je pense, c'est que, comme on l'avait déjà dit, on en avait déjà discuté, le métier de l'AI, c'est pas uniquement ChatGPT, c'est toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Et c'est fondamentalement un métier d'infrastructure. Comme l'électricité, c'est pas l'ampoule. C'est toutes les centrales qu'il y a derrière, les réseaux de distribution, les transformateurs, etc., les barrages, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on est dans un métier d'infrastructure. ChatGPT, c'est quelques dizaines de milliards. Le cloud Amazon, Microsoft qui vient d'être annoncé, 100 milliards plus 150 milliards. Donc on voit bien que c'est un métier d'infrastructure, c'est des métiers qui demandent énormément d'argent, énormément de puissance. Et quand on regarde aujourd'hui, il y a les États-Unis et le reste du monde. Les États-Unis sont loin, ils continuent d'accélérer très fort les deux annonces, Amazon, Microsoft. Et là, c'est pas un trou entre l'échappée et le peloton, c'est... Le maillot jaune est parti, et là, sur une étape, ils viennent gagner le Tour de France. Parce que ce qu'ils ont fait en un an, et ce qu'ils sont en train de faire, c'est, pour l'Europe, à mon avis, quasiment irrattrapable.
Mais bien sûr.
Et même la Chine, quand on regarde la part de marché du plus gros cloud en Chine, qui est Alibaba, c'est moins de 4% au niveau mondial. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Et c'est incroyable. Et on voit que, bien qu'ils aient une avance déjà colossale, ils continuent d'accélérer sur le métier d'infrastructure, bien sûr sur le métier des langages, mais aussi sur le métier d'infrastructure. Et là, tout d'un coup, c'est juste dingue. Donc les États-Unis sont en train de prendre une avance pour les 10 à 20 prochaines années en ce moment. Et là, tu citais un certain nombre de chiffres financiers tout à l'heure. Bah ouais, c'est là, c'est... Et voilà.
Et moi je serais curieux. On devrait regarder un peu. Moi, je dis souvent qu'il faut regarder les hommes aussi. Tu sais, on regardait dans tous les gens dans l'IA. Et je suis sûr qu'il faut regarder les hommes chez Microsoft, qui sont des gens de l'énergie, qui viennent de chez GE, qui viennent des grands électriciens américains, et qui sont rentrés chez Microsoft pour justement bâtir à la fois ce réseau électrique, à la fois le réseau aussi. Tu as des gens de Cisco.
Absolument. Enfin, absolument,
voilà,
absolument.
Tu vois, c'est
Amazon, c'est le plus gros acheteur mondial d'électricité verte. Le plus gros acheteur mondial d'électricité verte, c'est Amazon. Pour ses serveurs.
Et puis, pas loin, tu dois avoir Google, et pas loin, tu dois avoir Apple ou Microsoft aussi, non ?
La question de l'électricité, et entre autres l'électricité propre, et tu mentionnais le nucléaire, et tu as absolument raison. Aujourd'hui, il y a des mini-réacteurs nucléaires qui vont être mis autour de ces énormes usines de data. Donc on est dans un monde, c'est une nouvelle infrastructure. Autrefois on disait, où est, après Subtélécom, après SupAéro, où est SupAI? C'est un ensemble, c'est pas uniquement les langages comme ChatGPT ou Mistral, etc. C'est important, mais c'est un peu l'ampoule de l'électricité. Tout ce qu'il y a avant pour faire ces larges modèles, ce sont des sommes qui sont colossales. Aujourd'hui, On prend le budget de l'État, c'est 450 milliards d'euros par an en France. Les sommes qui viennent d'être annoncées entre Amazon et Microsoft, c'est 250 milliards. La moitié du budget de l'État. Donc, quand on dit que fait l'État, ben, même là, on voit que l'État ne peut plus. C'est hors de portée.
Non, c'est du privé.
Et donc, il faut que ce soit des investissements privé. D'entreprises, etc. Et donc, des prises de risques. Ce sont des prises de risques. Oui. Et ça, c'est une question de mentalité. On en revient à Tesla sur l'automobile. Okay. Est-ce qu'on est capable d'encore de prendre des risques en Europe?
Clément, et après on enchaîne sur Amazon.
Ouais, bah comme ça on fait la transition. Mais
bien sûr.
En fait, ce qui est marrant, c'est que quand nous on a commencé le cloud, la promesse c'était moins de data center parce que tu mutualises. Bon, c'est comme le covoiturage. En fait, je veux dire, en l'espace de 5 ans, on va passer à data center everywhere. Tu vas mettre des data centers absolument partout. Et les États, avant les États se battaient, et c'est encore le cas, tu vois, on parlait des voitures chinoises, par exemple l'usine BYD, mais pour avoir les usines. L'usine finalement va être construite en Hongrie, mais la France espérait de l'avoir. Maintenant, les États se battent pour avoir des data centers. Et tu vois, si on parle d'Amazon, il y a trois trucs. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à en construire des tonnes des data centers? Il y a trois trucs.
Et donc là, c'est la nouvelle actu.
Transition.
150 milliards investis sur 15 ans pour Amazon.
Pour les data centers.
Pour justement être... on va dire, au top du top des data centers partout dans le monde. Ils sont déjà au top du top. Rappelons que c'est les numéros 1, AWS.
Amazon, c'est 31% de part de marché.
Voilà. Ouais. Mais ils étaient à 33 l'année dernière, et ils voient que Microsoft est en train, petit à petit, de leur grappiller des parts de marché. Et puis il y a Google qui est là derrière aussi.
Et pas petit à petit, je pense que le coup OpenAI, là on l'a vu parce que c'est au quatrième trimestre. Hein. Donc 31 contre 33 pour Amazon. Google a gagné 1%. Google, je crois qu'ils sont ils sont un peu plus loin derrière, ils sont à 11%, voilà. Ils vont, mais avec Gemini, ils vont certainement avancer, parce que c'est vrai qu'on a peu entendu Amazon sur son IA.
C'est ceux qui ont la stratégie la moins lisible.
On sera à l'AWS Summit, ce sera l'occasion de leur poser la question.
Il sera demain d'ailleurs pour un Tech & Co spécial et Tech & Co Business aussi.
Tech & Co Business, ils ont investi beaucoup dans Anthropic, mais je pense que là, Microsoft, je serais curieux de voir sur les deux prochains trimestres 2024, comment Microsoft va grignoter, parce que toi tu connais les raisons contractuelles, c'est un peu compliqué de basculer de l'un vers l'autre. Enfin, ça se fait de plus en plus. Et je pense que l'année 2024 va montrer vraiment cette bascule d'un Amazon qui est en train de fléchir. Bon, même si la demande, elle reste forte, donc il fléchit dans un marché en croissance. Un Google qui monte, un Microsoft qui est en train de grimper en flèche. Et là, je pense que pour Amazon, c'est important de montrer attendez, mais nous, on va remettre de l'argent, rassurez-vous, restez chez nous. Enfin, il y a aussi cet effet d'annonce, je pense.
Tu vois, l'AWS Summit, moi j'y étais ce matin pour Paddock. Ils sont conscients de deux trucs. Ils ont pris du retard sur l'IA. Ils avaient une stratégie un peu de frugalité, de bon père de famille, de attendez, faut pas avoir les trucs qui brillent trop parce qu'il y a des promesses, mais la sécurité des données, machin. Ça a été complètement balayé par l'effet qu'il y avait autour de Google et Azure sur la partie générative AI. En plus, ils sont conscients d'avoir un truc, on parlera peut-être de Gmail tout à l'heure, mais qu'il leur manque un truc par rapport à Google et par rapport à Microsoft. Cette partie Office ou Drive, mais Office 365, où en fait, tu as tout un écosystème
utilisateur. Qui est utilisé par n'importe qui.
Ouais, et souvent par les entreprises, où tu peux intégrer justement GenAI, machin. Mais c'est vrai que Amazon, ils ont besoin de montrer des choses, et puis il y a trois trucs. Un, ils ont besoin d'investir parce que data center, c'est très vite, je voulais dire outdated en tête, mais c'est très vite obsolète. Merci. Premier truc. Deuxième truc, t'en parlais, Yves, sur la partie énergie verte. Ils ont des contraintes sur faire de l'alimentation hydroélectrique, sur faire de l'alimentation verte, notamment aux États-Unis où il y a beaucoup de subventions qui sont liées à ça, qui nécessitent de faire énormément pour moderniser les data centers. Puis un troisième truc qui est, il faut aller construire des data centers dans certains marchés. Et par exemple, ils viennent d'annoncer qu'ils mettaient 5 milliards pour construire un ou plusieurs data centers en Arabie Saoudite, où Google est déjà très présent. Parce qu'en fait, le Moyen-Orient, en fait, exactement comme tous les pays du monde, et ça c'est une zone qui se développe beaucoup, on leur dit, attendez, nos données, faudrait qu'elle soit hébergée chez nous. Et construire un data center, ça coûte très cher. Donc, il faut la Thaïlande, la Malaisie, il faut aller conquérir ces marchés qui sont en demande de
souveraineté. Il faut régionaliser le cloud.
Exactement. Finalement. C'est la stratégie que tout le monde a et ça nécessite des dizaines dizaines et des dizaines de milliards.
Ah oui. D'où ces 150 milliards qui sont planifiés sur 15 ans, je crois.
Sur 15 ans.
10 milliards par an.
Nous, on a toutes les normes CSRD qui arrivent, hein, le rapport de durabilité, il va falloir donner des chiffres aux entreprises.
On va terminer sur une bonne nouvelle, mais peut-être Yves là-dessus. Quelque chose à rajouter ou pas ?
Non, rien de particulier. Je pense que c'est un monde qui est en marche et les États-Unis ont une avance colossale. Voilà, c'est ce qu'on a dit.
Ce que tu as dit sur l'infrastructure et...
Bon.
Yves et moi, on se souvient quand on faisait tourner des petites dynamos dans les ruisseaux pour faire tourner.
Et puis sur le vélo aussi.
Voilà, sur le vélo pour faire allumer une petite ampoule. On se dit, c'est chouette, c'est ça l'électricité.
Bah, allez, on pourrait faire tourner un Game Boy éventuellement avec ça, mais
on va reparler de Pinocchio encore.
Pas un chipset de Nvidia. Bon, on a été un peu lourd ce soir.
Oui, enfin, dure soirée.
Passionnant, mais on va terminer quand même sur une note positive, si vous le voulez bien.
Allez.
Avec une première mondiale française, mesdames, messieurs. Et pour le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui vient de dévoiler donc pour la première fois une série d'images du cerveau qui sont obtenues grâce à un scanner IRM équipé d'un aimant surpuissant. De quoi espérer dans les années qui viennent des sauts technologiques et médicaux importants. On retrouve les explications de Jean-Baptiste Huette et on revient sur ce plateau.
Observer le cerveau humain avec une précision et une résolution inédites. C'est ce que promet ISE, un des scanners IRM les plus puissants du monde, capable de délivrer un champ magnétique d'une intensité de 11,7 Tesla contre 3 pour un scanner IRM classique. Cette installation va permettre aux scientifiques de redécouvrir le cerveau humain, d'observer les neurones en action, texture, contraste, veines. Sa résolution inédite devrait contribuer à faire des sauts technologiques dans la maladie d'Alzheimer, celle de Parkinson, la sclérose en plaques ou encore dans la psychiatrie. Au cœur de l'installation, un gigantesque aimant de 135 tonnes et de 5 mètres de diamètre, fabriqué par Alstom, un aimant supraconducteur refroidi à moins 271 degrés Celsius. Il a même fallu construire le bâtiment autour. Plus de 20 ans de travail pour les équipes du CEA et 70 millions d'euros ont été nécessaires pour réaliser cette prouesse scientifique. Un scanner qui, pour l'instant, est un outil expérimental. On ne verra pas ISO tout de suite dans nos hôpitaux. De nombreuses années seront en effet nécessaires avant de parvenir à miniaturiser une telle installation.
Et bien voilà, le scanner le plus puissant au monde et français. Enfin, je crois qu'il est français et allemand, parce que les Allemands ont participé à ce projet. Vous avez vu les images, la clarté en fait des IRM, c'est toujours fascinant. Hein. On arrive à avoir, en fait, c'est comme si on passait de la vieille télé hertzienne à la TNT en HD, quoi. C'est incroyable. Et ça va permettre de découvrir peut-être des pathologies, de prévenir certaines pathologies. On parlait d'Alzheimer, etc., etc.
C'est l'étude du cerveau, c'est toujours ça. Moi, je me souviens toujours d'un chirurgien, d'un neurologue qui me dit toujours, on se rend pas compte toute l'énergie qu'il faut à notre cerveau pour fonctionner. Et voilà, quand on parlait tout à l'heure des puissance des processeurs, ben nous, enfin tout ça, et on a toujours du mal à comprendre comment cette énergie fonctionne. Alors, on réussit à voir quelle est la part du cerveau qui est plus matheuse que l'autre, l'émotionnel, tout ça, on voit tout ça à travers. Mais il y a tellement de choses encore à découvrir, c'est sûr qu'en descendant à ce niveau de puissance, alors on est dans la recherche encore là.
Oui, bien sûr.
Recherche fondamentale, mais non, c'est quand même impressionnant. C'est aujourd'hui, c'est entre 1,5 et 3 Tesla.
Là, on est à 11 ou quasiment 12 Tesla.
Il en manque à 12 Tesla. Et pour ceux qui ont vu Oppenheimer, d'ailleurs, c'était intéressant parce que la résonance magnétique nucléaire qui crée Oppenheimer pour la bombe nucléaire, à partir de cette technologie-là
qu'on fait. C'est rigolo parce qu'on a commencé par les Tesla, on termine par les Tesla, mais pas du tout les mêmes.
Non, pas les mêmes.
C'est rigolo, hein, quand même. Tiens, juste un petit aparté. Mardi prochain, nous aurons l'un des chefs de ce projet du CEA qui sera sur le plateau de Tech & Co pour nous expliquer comment cet appareil a été conçu, parce que je ne sais pas si vous avez bien entendu Jean-Baptiste, ils ont décidé de créer cet appareil au milieu de l'endroit où il va être testé, parce que c'est tellement gros, ça fait 5 mètres de diamètre, 132 tonnes, enfin c'est un truc incroyable. Ça vous inspire ou pas ?
Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que je me souviens...
Et c'est français, j'ai envie de dire. J'avais presque envie de dire un gros mot, mais c'est bien.
Il y a plein de choses européennes qui marchent très bien. Je préfère dire européennes que françaises, parce que dans ce cadre-là, il n'y a pas que les Français. Hein, c'est quand même un projet
on va prendre quand même c'est la France.
Européen, mais majoritairement français sur ce projet-là. Mais quand on... Juste pour donner des images, le champ magnétique terrestre, c'est 5 10 puissance moins 5 Tesla. Donc c'est ce qui permet de voir qu'une aiguille se dirige pour diriger les bateaux, les avions, etc., etc. Quand je faisais mes études, il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça, je me souviens des professeurs qui me disaient, Yves, si à la fin d'un calcul,
tu tombes sur quelque chose du style 0,5 Tesla ou 1 Tesla, mais tout à la poubelle, tu t'es trompé. Parce que ce n'est pas possible de faire, d'arriver à des choses de cet ordre de grandeur. C'est juste impossible. Eh bien, moins de 40 ans après, moins de 30 ans après, on est à 11 Tesla. Ouais. Donc mes professeurs de physique étaient quand même des
oui,
professeurs émérites.
Des pontes, bien sûr.
C'est cette accélération.
C'est incroyable. C'est juste que même incroyable. Eux qui étaient des experts de l'expertise n'imaginaient même pas dans leurs rêves les plus fous arriver à ça.
Inimaginable. Inimaginable.
Et en attendant le quantique qui a encore donné un petit coup de.
Ah oui, c'est clair.
Accélérateur autour de tout ça.
Oui, bon. Mais c'est un truc qui aujourd'hui est vrai en France, qui est l'excellence de la recherche française, notamment dans les matières scientifiques. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas d'entendre qu'il n'y a pas assez de moyens, que beaucoup de chercheurs partent aux États-Unis. C'est vrai. Qu'on forme pas assez d'ingénieurs, c'est vrai aussi. En revanche, quand tu regardes le très haut niveau de l'ingénierie française, quand tu regardes le niveau des mecs qui sortent de centrales, de polytechniques, des mines, etc., etc., on n'a rien à envier à personne. Et quand tu regardes le CEA, quand tu regardes le CNRS, etc., on est capable de... On a beaucoup de lauréats, de prix, de médailles Fields, de prix Nobel, etc., etc. On est très bien placés. On est capable de grandes innovations comme celle-là. On a toujours eu un peu de mal sur la partie commercialisation, industrialisation, etc., etc. Mais la France reste l'élite de l'ingénierie mondiale. Donc oui, c'est des trucs qu'il ne faut pas se...
Si on avait davantage de financiers qui aiment prendre des risques, si on avait davantage d'entrepreneurs qui aiment prendre des risques... C'est facile à dire, hein, notre position de journaliste. Mais justement, rien que le CEA... Mais toutes les innovations.
Mais le CEA, c'est incroyable.
On pourrait faire un Tech & Co tous les soirs sur l'innovation CEA du jour. On pourrait presque faire ça à chaque fois.
Je veux dire, il faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie.
Voilà.
Non, mais parce que.
Ça va gueuler.
Qui. Ça va gueuler.
Ça va gueuler, je le sens.
Ça va gueuler. Non, mais. On veut des caisses de retraite. On a des caisses de retraite. Les caisses de retraite ne financent rien, à part les retraites. OK? Aux États-Unis, ils ont des fonds de pension. Ils n'ont pas de caisse de retraite. Moi, quand je vivais aux États-Unis, je ne cotisais pas pour ma retraite. J'avais des fonds de pension.
Qui met un peu d'argent. Okay.
Ce n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur,
non,
encore une
milliards,
fois.
4 milliards.
D'accord. Donc, évidemment, quand il y a des sommes aussi colossales que les fonds de pension américains qui investissent avec des gens qui prennent des risques sur ces caisses de retraite, ou sur ces fonds de pension, on n'a pas les mêmes résultats. Nous, aujourd'hui, on investit dans des assurances-vie, des SICAV monétaires. Bon, on investit dans des SICAV monétaires. Évidemment, on n'a pas les mêmes résultats. Donc, je pense qu'il ne faut pas critiquer systématiquement. On a fait des choix. Ce sont des choix de société.
Tout à fait.
Ces choix de société, ils donnent un certain nombre de résultats qui sont sociaux. Okay. Les Américains, ils ont fait d'autres choix qui sont beaucoup moins sociaux, où il y a plein de gens dans la rue à San Francisco qui dorment dehors, okay. Ce qui est malheureusement, il y en a toujours trop en Europe et en France, mais c'est pas du tout la même chose. Donc on a fait des choix, ces choix ne mènent pas aux mêmes conclusions. Et c'est vrai qu'en ce moment, nos choix nous pénalisent sur, non pas la recherche fondamentale, mais sur la mise en application de cette recherche fondamentale.
L'État-providence ou AWS, tu choisis.
Oui, c'est ça.
C'est à peu près ça, oui. État-providence ou AWS. Il y a des pour, il y a des contre.
Mais ce qui va être intéressant de voir avec ce projet qui est incroyable, qui, en théorie, tous les hôpitaux du monde entier, et sans doute les hôpitaux les plus riches, devraient s'arracher cette technologie.
Est-ce qu'ils sont équipés par une boîte française ?
Est-ce qu'alors, voilà, c'est ça, parce que Jean-Baptiste le disait, c'est pas pour tout de suite que ça va arriver, ça va être industrialisé ce truc-là. Ça, ouais. Il faut qu'ils arrivent à miniaturiser tout ça. Et est-ce que les moyens, au-delà de la recherche du résultat, vont être mis aussi pour que ça devienne un vrai business, en fait ? Parce que c'est ça la question. Et derrière ce business, c'est aussi peut-être détecter des maladies plus tôt, sauver des gens. Enfin, il y a une belle histoire derrière tout ça. C'est la question. Ça, on verra bien. C'est la question qu'on posera à notre chef de projet de cette IRM la semaine prochaine quand il viendra sur le plateau de Tech & Co. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Et voilà, on termine sur une note un peu positive.